On va parler maintenant de l'élection présidentielle. On va parler des chances de la gauche hors la France insoumise. Est-ce qu'elle est même en train, cette gauche, d'hypothéquer ses chances pour 2027? François Hollande dit qu'il se prépare. Bernard Cazeneuve assure avoir le désir d'être président de la République. Raphaël Glucksmann est en attente. Il est en observation. Il n'y aura pas de fin à trois candidats à gauche, dit Bernard Cazeneuve. Le paysage à gauche va bouger d'ici la fin de l'année. On va justement l'évoquer maintenant dans le signé consigné, sachant que quand on regarde le sondage Elab pour BFM TV et La Tribune dimanche, quel positionnement politique du président de la République idéal? Bien, pour ceux qui répondent, pour les Français interrogés, 28%, ce serait plutôt à droite, 19% à gauche, 16% au centre, et pour, et là c'est la majorité, 37%, aucun des trois. Voilà, ça va être le thème de notre discussion maintenant dans le signé consigné. Avec ce soir, pour discuter avec Charles Consigny, le député socialiste Jérôme Guedj, bonsoir.
Candidat à l'élection présidentielle.
Oui.
Et nous sommes avec Charles Consigny, bonsoir Charles. Est-ce que la gauche a déjà perdu l'élection présidentielle? Je dis la gauche, hors LFI, hein, bien sûr.
Il faut jamais se hasarder à des prédictions trop raides en matière de politique. Tout est toujours possible. Néanmoins, je pense effectivement que la gauche n'a pas tout à fait le vent en poupe là pour 2027. On verra. Peut-être qu'ils vont nous surprendre. Mais honnêtement, j'ai du mal à
pourquoi
y croire. Parce que j'ai lu d'autres chiffres qui m'intéressent, qui sont la popularité de Jean-Luc Mélenchon et du maire de Saint-Denis, Monsieur Bakayoko, auprès des sympathisants de gauche et de toute la gauche, pas seulement de la gauche radicale. Or, ces deux figures sont très populaires auprès des sympathisants de gauche au sens large. Donc je pense que, contrairement à ce qu'espèrent les tenants de la gauche républicaine, dite républicaine, moi je pense qu'elle n'existe pas vraiment d'ailleurs, je pense que toute la gauche est extrémiste, mais c'est un autre sujet dont nous allons débattre, eh bien je pense que Mélenchon ne va pas se dégonfler et que donc... Au mieux, ce qui peut se passer pour la gauche, c'est qu'il se hisse au second tour contre Bardella et il fera gagner Bardella. Donc voilà.
Seul qui est bien placé à gauche, pour vous, c'est Mélenchon.
J'ai le sentiment, on verra tout peu. Il y a les campagnes, ça existe. François Hollande, alors je dis pas pour vous, Monsieur Guedj, parce qu'on vous a pas encore vu dans une campagne présidentielle, mais François Hollande, par exemple, est quelqu'un d'efficace en campagne. On peut pas dire le contraire.
Il a été élu président.
Il a montré qu'il savait faire. J'y crois pas trop et je termine par là parce que je pense aussi que la France vit déjà le socialisme et que donc si elle a envie de changement, c'est pas en votant à gauche.
Jérôme Guedj, donc dans la gauche non mélenchoniste, on va dire peut-être la gauche social-démocrate, la gauche du gouvernement, je sais pas comment la définir. Il y a vous.
Moi,
il y a...
je revendique le terme de gauche républicaine.
Bon, il y a la gauche.
Une partie de celle-ci s'est éloignée des rives de ce qui fait la République.
Alors il y a François Hollande, il y a Bernard Cazeneuve qui a fait part de son désir de devenir président de la République. Raphaël Glucksmann qui sort un livre à la fin du mois, donc on voit chacun avance ses pions. Vous êtes déjà nombreux sur la ligne de départ, avec peu de chance en fait, c'est ce que dit Charles.
La question c'est qu'attendent les Français? Puisque vous vous appuyez sur des sondages, c'est toujours utile pour lancer la discussion. C'est quoi les sujets de préoccupation prioritaires de nos concitoyens? Numéro un, le pouvoir d'achat. Est-ce que la gauche est capable d'apporter des réponses en termes de pouvoir d'achat? Je pense que oui. Notamment en activant le levier de ce que j'appelle un socialisme de production, c'est-à-dire permettre de créer de la richesse pour pouvoir mieux la partager. C'est le sujet de la justice fiscale. Deuxième sujet de préoccupation, ça me fascine, les questions de santé. Voilà. Un modèle social, la sécurité sociale, l'accès aux soins. Hier, j'ai passé la journée à Santexpo. Je sais pas ce que c'est, Santexpo, c'est le grand salon de tous les professionnels du soin, les hôpitaux, les soignants, etc. C'était marrant parce que les organisateurs, la Fédération Hospitalière de France, m'a dit, je crois que vous êtes le seul candidat à l'élection présidentielle qui est venu passer du temps. J'ai passé la journée entière parce que c'est le sujet de préoccupation premier de nos concitoyens. Voilà. Hier, il y a une enquête qui a été.
Dans un pays qui vit.
Hier, il y a une enquête qui a été publiée.
Sur les rendez-vous
médicaux.
Ouais. Ouais.
C'est quand même fascinant. En moyenne, il faut 42 jours en France pour avoir un rendez-vous chez un cardiologue. C'est déjà trop long. Mais surtout, ce qui est insupportable, c'est les inégalités. C'est 14 ou 7 jours à Paris et c'est 164 jours dans le Gers.
Ouais.
Voilà, on touche
venir
au cœur de la politique.
Son cardiologue aussi. Hein.
Oui, non, c'est pas ça.
Du Gers, c'est loin quand même.
J'adore le modèle très libéral.
Bien sûr. Du Gers, c'est quand même loin.
Si on a un problème cardiaque, oui, on va avoir
le temps d'arriver, on est claqué.
Non, monsieur Consigny.
Le temps d'arriver,
on est claqué. Quand on est touché par une maladie chronique et qu'on a besoin d'un suivi régulier, on va pas monter à Paris. Et ça, c'est une vision très parisiano-centrée.
Moi, je pense qu'il faut être pragmatique. Il n'y a pas que Paris, par ailleurs. Il y a le Gers, mais il y a d'autres régions à côté. Moi, je suis désolé, je trouve qu'il faut être pragmatique. peut aller voir un médecin un peu plus loin que dans son département, parfois, quand on a une urgence.
Mais il y a des départements où il n'y a pas un seul spécialiste.
Juste cette incise.
D'abord, tout n'est pas urgence. Le défi premier de notre système de santé, c'est ce qu'on appelle la chronicisation des pathologies. Le fait que, désormais, on survit avec des maladies dont on mourait il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans. C'est une bonne nouvelle. Mais ça suppose de changer totalement le modèle d'organisation qui est tourné, justement, uniquement sur l'hôpital.
Oui, mais la question qu'on a posée, c'est la gauche.
Pouvoir d'achat, santé, troisième thème de préoccupation, c'est la sécurité. Je pense que c'est un sujet sur lequel la gauche ne doit pas...
A laissé un peu tomber de ce...
Regardez les maires qui ont été élus et bien réélus dans des villes, c'est parce qu'ils ont pris à bras-le-corps les problématiques de sécurité. Je pourrais prendre l'exemple de mon ami Michael Delafosse, qui ne mégote pas sur la lutte contre le narcotrafic ou les incivilités du quotidien. Donc, partons de l'aspiration première de nos Français, de nos concitoyens. Charles Consigny a un aveu qui lui brûle les lèvres à chaque fois qu'il le prononce. Il dit, d'une certaine manière, le socialisme a déjà triomphé. Je ne sais pas, mais la structuration de la société...
Ça me brûle pas les lèvres, ça me trouve les poches. Pardon, hein. Je le vis au quotidien.
Peut-être que ça ne trouve pas assez vos poches.
Ah bon? Il ne reste plus rien, là. Vous voyez? Il n'y a plus rien. J'ai tout donné au système de M. Gage. Voilà.
Mais est-ce que vous aimez votre pays?
C'est une réalité.
Est-ce que vous aimez justement le modèle un peu particulier, même s'il y a ces inégalités, qui fait quand même que globalement, on n'a pas à débourser.
Mais vous ne changez pas le modèle.
Il faut le réformer. Peut-être à front renversé. Moi, je veux être un candidat socialiste à l'élection présidentielle qui est capable de vous dire que pour sauver ce modèle, il faut faire aussi des économies. Voilà, je vous ai parlé de justice fiscale, de partage des richesses, mais il y a aussi des économies à faire parce que dans la dépense publique, il y a une dépense qui n'est pas efficace. Et moi, j'assume d'aller traquer chaque euro. J'ai été président d'un département et matin, midi et soir, je m'évertuais à ne pas augmenter les impôts. Je l'ai pas fait pendant les 5 années où j'étais président. Et on a fait des économies sur le fonctionnement de notre collectivité.
C'est incroyable parce que tout le monde, tous les gens avec qui je débat dans cette émission, ils n'ont que des vertus. Et alors, si on faisait tous comme eux à titre individuel, la France serait vraiment dans un état remarquable. Mais c'est drôle comme collectivement, par contre, c'est là, peut-être que c'est la foule qui rend, certains disent que la foule rend con. Je dis pas tout ça pour vous, mais je dis ça, par exemple, pour ce qui a été voté par les socialistes contre le cornu, là, le budget, ou avec le cornu, d'ailleurs, contre les intérêts des Français. Vous pouvez pas dire que vous êtes à compter chaque euro quand vous avez fait faire à le cornu le budget le plus dépensier. Qu'on a fait depuis probablement plusieurs décennies. Donc
on a fait quelque chose qui peut-être ne vous plaît pas. On a été capable de construire un compromis. Moi, je l'appelle
Pas un compromis. Vous lui avez mis un flingue sur la tempe et il a accepté parce que son job est de durer jusqu'en avril prochain et c'est ce qu'il va faire. Donc, moi, écoutez, en tout cas, il y a peut-être quelque chose sur lequel on peut non pas s'entendre, mais il y a un vrai sujet effectivement qui est le pouvoir d'achat. Moi, je pense que la gauche a tué le pouvoir d'achat avec la redistribution. Moi, je pense qu'il faut maintenant penser à la distribution et non pas à la redistribution. C'est-à-dire mieux distribuer pour moins redistribuer. Je pense qu'il faut s'inquiéter.
C'est trop subtil. Expliquez-moi.
C'est pas très compliqué. C'est tout simple. Je pense qu'il faut maintenant s'attaquer au sujet des salaires, le prendre à bras le corps, faire en sorte que les Français soient mieux payés.
Moi, je vois
deux leviers. Un, moins redistribué. Donc, ça fera baisser les charges et ça fera que les entreprises pourront verser aux salariés directement ce que pour l'instant elles donnent à l'URSSAF.
Le
net sera plus proche du brut. À ce système merveilleux que vous défendez et que vous confondez avec la France. Vous avez l'air de dire que la France, ça n'est que la sécurité sociale. Je ne suis pas sûr.
C'est un pilier.
Un deuxième levier que je vois, et là je pense que pour le coup, même si c'est pas ce que je souhaite dans l'absolu, droite et gauche peuvent être d'accord, c'est faire en sorte que les entreprises payent mieux leurs salariés. Notamment via les systèmes d'actionnariat salarié, de participation, de mettre sur la table les sujets des salaires beaucoup plus régulièrement qu'on ne le fait. Et ça, je trouve que c'est un sujet intéressant pour la présidentielle qui arrive. Comment on fait en sorte que les gens soient mieux payés? Pas tout le système de rustine que la gauche a inventé et qui finit par peser à la baisse sur la rémunération des gens.
Alors, sur les deux piliers que vous venez de mentionner, il y en a un avec lequel je suis d'accord et un autre sur lequel j'ai une question. Vous dites qu'il faut moins prélever et donc moins redistribuer.
Oui.
Mais alors, comment vous vous assurez sur la maladie? Puisque si vous baissez les prélèvements pour financer la sécurité sociale, ou si vous baissez les prélèvements pour financer la retraite, ou si vous baissez les prélèvements pour financer les allocations familiales, qu'est-ce que vous baissez comme prestation sociale en face? Est-ce que vous demandez aux gens, OK, vous savez, on peut supprimer 3 points de CSG, Et du coup, on ne finance plus la branche assurance maladie.
La réponse.
Et la branche assurance maladie, si vous la financez pas, vous allez donc demander aux gens de prendre une complémentaire santé.
La réponse, voilà. Elle est sur votre compte Twitter.
Oui.
Ça, c'est le bandeau de votre compte Twitter.
J'étais opposé, je suis toujours opposé à 64 ans,
c'est non. Oui. C'est la réforme des retraites.
En tous les cas, c'est ce qui était présenté par Elisabeth Borne.
Quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a un des très gros postes de dépenses qui fait que les salaires sont extrêmement chargés, ce sont les retraites. Donc, par exemple, je passe la retraite à 67 ans, déjà. Si ce n'est 68...
Pour tout le monde.
Dans l'ensemble, oui. Dans l'ensemble, sauf les métiers très pénibles.
D'accord,
mais sinon, dans l'ensemble, oui.
Vous savez quoi? Moi, je veux travailler jusqu'à 67 ans parce que j'estime que je serai en capacité de travailler.
Il y a beaucoup de Français qui vont être obligés de travailler jusqu'à 67 ans puisque quand la gauche était au pouvoir, elle a allongé la durée.
On est passé à 43 annuités.
La durée des annuités. Donc 43 pour quelqu'un qui a commencé, on va dire, à 24 ans, par exemple, ça lui fait partir à 67 ans.
Ça ne vous plaira pas.
Mais on peut imaginer que celui qui a commencé à travailler à 24 ans, c'est parce que
il a fait des études
et qu'on peut imaginer soit cadre, même si par c'est exemple. Pas voilà et que a, moi pour les cadres et je le dis moi je suis pas attaché à l'âge légal, je pense qu'il faut prendre, il faut moduler.
Vous voulez faire sauter l'âge légal ou pas, parce que c'est ce que propose Gabriel Attal par exemple.
Je pense que c'est un totem qu'on peut enjamber, mais il faut faire attention parce que paradoxalement le système de retraite est extrêmement compliqué. Oui. Il protège notamment pour les personnes qui ont eu des carrières hachées.
Notamment les femmes.
Ensuite, s'agissant de la santé, Monsieur Guedj, puisque vous l'évoquiez, mais déjà, si on fait des économies sur les retraites, vous verrez qu'on s'en sortira beaucoup mieux. Deuxièmement, si on augmente le temps de travail, vous verrez qu'on paiera beaucoup plus facilement nos retraites et notre système de santé. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez garder ce système, il faut que les gens travaillent plus. Et c'est ça qui le permettra. Troisièmement, je pense qu'il faut être courageux sur la santé. J'ai déjà eu l'occasion de faire un mot d'humour là-dessus, mais je suis effectivement éberlué de voir ce que les Français achètent tous les jours dans des pharmacies pour 1,20€.
La carte vitale, c'est la religion.
Je pense que on devrait s'interroger. Je vois pas pourquoi, au fin fond de Trifouille-les-Oies, on a des pharmacies qui ressemblent à des casinos de Las Vegas. Je pense qu'il faut assumer
de se
poser.
De ce que vous...
Je dis la
vous
vérité.
Êtes en train de dire parce que vous habitez.
Quelle est.
Parce que vous
je dis la vérité.
Vous habitez à Trifouille-les-Oies.
Oui.
Alors il faut que vous ayez une école avec
non,
des
je dis pas
bons.
Ça.
Et il faut
je
que vous
je dis pas ça, je dis
pas un cardiologue à proximité.
Je dis que mon
là,
village, je dis que mon
vitesse,
village
quoi.
Du
voilà,
Jura,
les métropoles où tout va bien,
je dis
et
que,
puis les gueux qu'on laisse crever dans leur solitude.
Monsieur Guedj, Las Vegas, ça n'est pas mon village du Jura. Et donc je comprends qu'à Las Vegas, il y ait des grands hôtels avec des fontaines, des spectacles et des limousines. Et je comprends que dans mon village du Jura, il y ait une boulangerie un peu plus modeste avec des gens un peu plus simples. Vous voyez? Et je pense d'ailleurs qu'ils sont peut-être plus heureux dans le Jura qu'à Las Vegas. Mais je vois pas pourquoi, à côté de cette boulangerie, il y a une pharmacie qui ressemble à un magasin Sephora. Et ça, je pense qu'il faut que ça change parce que
Sephora,
ça traduit une espèce de névrose française sur la santé. Et deuxièmement, ce qui va pas vous perdre non plus, et je vais sans doute pas me faire des amis, mais le nombre de témoignages que je reçois là-dessus, la France n'a pas à être l'hôpital de la planète entière. Alors ça va pas vous plaire, je le sais. Mais le nombre de témoignages que je reçois sur ce sujet, où les gens viennent avec la carte vitale de quelqu'un d'autre, où les gens viennent juste pour se faire soigner, repartent ensuite dans leur pays. Et où nous, on se fatigue à payer des internes, des systèmes, des gens qui travaillent la nuit pour soigner ces gens-là. Je suis désolé, c'est très beau d'avoir un grand cœur, etc. Mais il y a un moment, on doit quand même penser aux intérêts de notre pays. Et je pense pas que ce soit l'intérêt de notre pays d'être un hôpital américain gratuit pour la planète entière. Voilà. Ma position sur la baisse des dépenses.
Si vous me laissez deux minutes, d'abord, je vais être très content parce qu'on parle du fond, notamment sur les questions de santé. Et moi, je souhaite que ça puisse être un des enjeux de l'élection présidentielle, plutôt qu'on se pouille la tête sur des sujets périphériques. Mais de grâce, ne le faisons pas en maniant la caricature. Et c'est une facilité à laquelle vous cédez trop facilement, monsieur Consigny.
Mais je ne sais pas pourquoi c'est la caricature. Moi,
parce
je dis des choses simplement.
Ce que vous avez dit tout à l'heure sur les pharmacies en expliquant que c'est le casino de Las Vegas, mais la crème hydratante n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Et donc, le pharmacien. Non, la crème hydratante est vendue. Vous comparez
avec un
pharmacien Sephora. Non. Et là où je suis d'accord, dans les économies que je vous propose, c'est celle qui, de ne rembourser que les dépenses qui ont ce qu'on appelle un service médical rendu avéré. Et moi, je suis pour le déremboursement de médicaments.
D'accord.
L'homéopathie, on a déremboursé. On a bien
fait de dérembourser.
Et même là, récemment, dans le budget qui a été voté, et je l'assume, on a déremboursé un certain nombre de médicaments. En tous les cas, on les a passés au minimum, c'est-à-dire à 15%, parce que leur service médical rendu n'était pas efficace. Je pense qu'il y a des économies à faire. Je vais même vous les chiffrer sur l'assurance maladie, entre 15 et 20 milliards d'euros d'économies qu'on peut faire sur les 250 ou 270 milliards de dépenses d'assurance maladie sans pénaliser l'accès aux soins et le reste à charge sur les ménages. Pour être cohérent, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un sujet sur lequel
qu'on
je
revienne
suis pas
après
d'accord.
Sur notre discussion.
Un sujet sur lequel je suis pas d'accord. Mais vous voyez, non, on a court-circuité la discussion. Je suis très content parce que c'est pas un reproche. Vous avez envie de parler de la tambouille politicienne, de savoir qui est candidat, candidat.
Parce qu'au final, les Français, ils vont voter pour quelqu'un.
Oui, mais le candidat de la gauche républicaine, je veux être celui-là qui sortira de l'eau.
Mais justement.
Du lot, c'est celui précisément qui parlera de ces sujets extrêmement.
Et vous avez un autre combat, c'est les mutuelles.
Non, les mutuelles. On peut en parler, mais je vais pas l'évoquer. Mais le deuxième sujet que vous avez mentionné, en disant, il faut que les entreprises payent mieux. Et il y a des moyens de payer, notamment en associant et en partageant la richesse créée dans l'entreprise. Moi, ça me va bien de développer les mécanismes de d'augmentation des salaires par la négociation, voire de participation et d'intéressement.
Absolument.
Mais dans ce cas-là, il faut qu'on dise aux entreprises, il faut que vous acceptiez qu'on leur impose de plus et mieux participer, partager la richesse créée dans l'entreprise.
Mais justement, je voudrais simplement qu'on revienne au début de notre discussion. Pourquoi j'y tiens? Parce que Jean-Luc Mélenchon, il a dit, nous, c'est carré. On a un programme, on a un candidat. Bah vous, c'est pas carré, justement, dans cette gauche-là. Parce que Raphaël Glucksmann va sortir un livre qui s'appelle « Nous avons encore envie ». François Hollande se prépare, Bernard Cazeneuve a du désir.
C'est ça. Donc, son titre, «
Nous avons encore envie ». C'est le titre du livre de Raphaël Glucksmann qui va paraître le 28 mai. « Nous avons encore envie » avec un grand... C'est ce qu'il veut, c'est un grand sursaut patriotique. Donc on se dit, à gauche, c'est pas carré. Et c'est pour ça que vous allez perdre. Parce que vous n'avez pas de candidat, parce que le programme...
Je vais vous spoiler la fin de la série. À la fin, il y aura qu'un seul candidat issu de ce périmètre de la gauche républicaine. Voilà. Moi, la primaire qui m'intéresse, c'est la primaire des idées. C'est-à-dire de dire, voilà, ceux des sujets que nous mettons et qui sont différents de ce que propose Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il nous sort un programme long comme un jour sans pain et avec on rase gratis. Et avec le risque que vous pointez, c'est que si les Français n'ont pas l'intelligence de voir que tout ça ne fonctionne pas et ne permet pas de répondre aux défis, il y a un sujet que vous n'avez pas mentionné quand on parle du financement de la protection sociale. En effet, c'est trop assis sur les cotisations, c'est trop assis sur la masse salariale.
Maintenant, l'État paye aussi. Hein.
On a une révolution technologique devant nous qui s'appelle l'intelligence artificielle. Si on n'en parle pas dans cette élection présidentielle, il y a quelques jours, Arthur Mensch, le patron de Mistral, était auditionné à l'Assemblée nationale. Il a dit, c'est pas une question, c'est pas un problème dans 10 ans, c'est un problème dans 3 ans ou dans 5 ans. La destruction d'emplois que l'intelligence artificielle va provoquer sur les catégories des cadres, sur les catégories intermédiaires et demain combinée à la robotisation fait qu'il faut que rapidement on change le financement de la protection sociale si on veut que les machines ou l'IA qui remplacent un salarié puissent cotiser et financer la taxe.
Alors on peut pas aujourd'hui se lancer dans une campagne sans penser justice, parce qu'à chaque fois la justice se mêle des campagnes présidentielles. On vient d'apprendre que le parquet national financier avait ouvert une enquête sur l'affaire des statuettes concernant Dominique de Villepin, accusé d'avoir reçu des statuettes comme cadeau par des chefs d'État étrangers. C'est Robert Bourgis, l'ancien intermédiaire, qui l'a révélé. On apprend aussi qu'Édouard Philippe est visé par une enquête pour détournement de fonds publics. On sait que c'est la justice qui va trancher au Rassemblement National, hein, qui sera le candidat du RN, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ça fait beaucoup. Est-ce que la justice est trop présente dans la campagne?
Mais moi, je trouve beaucoup trop. Honnêtement, là, la question du bandeau, c'est la justice va-t-elle s'imposer? Elle est déjà dans la campagne, effectivement, en arbitrant entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Moi, je trouve ça... Honnêtement, j'ai lu, par exemple, les faits qui sont reprochés à Édouard Philippe. Comme disait Chirac, c'est une histoire de corne-cul. Honnêtement, je trouve que ça ne mérite certainnement pas l'ouverture.
C'est une affaire qui remonte déjà il y a 3 ans.
Ce qu'on appelle l'ouverture d'une information judiciaire, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, c'est quand même qu'on saisit que le parquet saisit un juge d'instruction qui ouvre une instruction, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait quand les faits sont complexes, sont graves, etc. En l'occurrence, j'ai lu ce qu'il en était, c'est un peu technique, c'est des histoires internes au Havre, etc. Ma position, pour le coup, d'avocat, c'est que ça ne mérite certainement pas une instruction. Et j'ai le sentiment qu'on ouvre une instruction presque pour le spectacle et pour faire durer quelque chose. Donc, je trouve ça assez choquant. Quant aux statuettes, il faut voir quand ça a été fait, etc.
Moi, c'est prescrit.
Je pense que c'est prescrit. Donc, dans ce cas-là, pourquoi? Bon, peut-être l'enquête est ouverte juste pour dire que c'est prescrit, mais je pense que la justice s'honorerait à attendre quand même la fin de cette campagne pour éventuellement, s'il y a des choses à reprocher aux uns et aux autres, pourquoi pas agir. Mais non, je le dis, là aussi, ah, comme
avant,
je le pense...
C'était la coutume.
Il y a une
c'était
obsession.
La justice laissait la campagne se faire.
Il y a une obsession aujourd'hui des juges vis-à-vis des politiques qui me paraît excessive.
Un dernier mot, Jérôme Gage, là-dessus, sur l'immixtion de la justice.
Non, ben, la justice, c'est déterminant dans l'état de droit. Donc, elle est indépendante. Elle considère qu'il y a des faits qui ont été révélés sur Dominique de Villepin. Qu'aurait-on dit si le parquet national financier ne s'était pas autosaisi pour dire, bah, justement, ouais, c'est prescrit, c'est pas prescrit, c'est grave, c'est pas grave, il a remboursé. Vraiment, la suspicion serait encore plus grande si on disait, attendez, comme il y a l'élection présidentielle, on congèle et on donne l'impression, vous avez un peu évoqué tout à l'heure, qu'on a un système à deux vitesses.
Merci.
Selon qu'on soit riche et puissant à Paris, on a la justice ou on a des pharmacies bien achalandées.
Mais
selon qu'on soit pauvre et éloigné de tout.
C'est vous
qui
caricaturez mon propos.
Je me glisse dans les pas.
En l'occurrence, vous voyez bien.
Merci beaucoup.
Qu'aujourd'hui, quand on est connu, puissant, etc., on a la justice trois fois plus sur le dos que quand on ne fait pas de politique ou de choses comme ça.
Merci Jérôme Gage. Merci Charles Consigny. À bientôt pour de nouvelles discussions.